C'est tous les mardis à 12h35 sur CFM, Histoire et Religion, une émission avec Bernard Vachereau, curé de Caylus. Bernard Vachereau, bonjour. La semaine dernière, on a vu naître les paroisses dans notre Occident.
Oui, tout à fait. Allez, et on a parlé aussi des Celtes avec l'eau, le baptistère, etc. Hein. Et donc, je disais que ces croyances remontaient à la préhistoire, en ce qui était dans notre Occident, notre Gaule. Hein. Mais on retrouve ailleurs ce type de croyance. Par exemple, on le retrouve en Inde, sur les bords du Gange, ou en Asie, ou en Égypte, avec l'eau du Nil qui était censée conduire les âmes des morts vers la mer Méditerranée.
C'est toujours l'eau qui purifie.
Ah oui, absolument. Hein. La Méditerranée, lieu où demeuraient les dieux. Ben oui, le dieu Neptune jaillit de l'eau de la Méditerranée avec son trident. Hein. Donc, jusqu'au 12e et 13e... Ben, tout d'un coup, j'ouvre une parenthèse, n'est-ce pas, avec les baleines de la mer, toujours d'après le mythe biblique de Jonas, que Jonas va à Ninive, bien malgré lui d'ailleurs. Bon, donc, la baleine, le monstre, etc. Donc, l'univers de la mer est un univers fabuleux dans la mythologie ancienne. David, d'ailleurs, Brodel, dans son livre sur la Méditerranée, le montre de manière passionnante. Donc, jusqu'au XIIe et XIIIe siècle, l'organisation des paroisses, surtout rurales, était quelque peu anarchique. Et il a fallu attendre ces époques pour voir apparaître une organisation beaucoup mieux structurée, et le Concile de Trente a parachevé le tout dans sa session de 1563 avec l'organisation actuelle des paroisses, qui d'ailleurs est actuellement en pleine réorganisation depuis le Concile Vatican II et surtout dans nos diocèses français depuis environ 2-3 ans. Bon. Alors, comment se déroulait la nomination d'un évêque? L'évêque était nommé par élection, réunissant le clergé et le peuple. En effet, lors du Concile de Reims, en France, présidé par le pape Léon IX, pape de 1019 à 1054, ce dernier décida que « Nul ne peut s'arroger le gouvernement de l'Église s'il n'a été élu par le clergé et le peuple. » C'est quand même formidable de voir que jusqu'à la moitié du XIe siècle, un pape présent à Reims décide qu'il n'y a pas d'élection valable d'un évêque s'il n'a pas été désigné par le clergé et le peuple, cum populo. L'élection se faisait par acclamation publique, mêlant le clergé et le peuple. Toutefois, en 1059, le cardinal Hildebrand suggéra au pape Nicolas II, pape de 1059 à 1061, de faire élire les papes sur élection des seuls cardinaux sans les évêques restant élus par le peuple, et de choisir des Romains et de procéder à des élections à Rome et non ailleurs. Il faut dire que il y avait dans cette volonté de choix de pape à Rome et non ailleurs, il y avait la crainte que les conciles d'élection ne soient dominés par des raisons politiques.
Ce qui a été le cas, parce qu'il y a eu plusieurs papes pendant une période.
Il y a eu justement ce problème, et notamment dans mes recherches sur les papes d'Avignon, j'ai bien vu combien, par exemple, les décisions de M. Philippe le Bel, par rapport au roi Édouard d'Angleterre ont pesé sur les élections pontificales. C'est pour ça que ce n'était pas forcément malvenu, cette décision du choix de Rome. Hein. Alors, le troisième concile de Latran, qui a été tenu en 1179, alors bien le séparer de celui de 1139, n'est-ce pas, et le concile de Lyon en 1274, ont pris des mesures pour tenter de, théoriquement, ouais, là on reste quand même dans le théorique, hein, garantir l'honnêteté et la liberté des élections papales romaines et de leur validité, chose qui prêta sérieusement à contestation, comme on le vit, pour l'élection très contestable du pape Urbain VI, élu sous la contrainte en 1378, parce qu'il fut un véritable brigandage, digne de celui d'Éphèse, ce fameux concile d'Éphèse en Turquie en 449, par son scandale. L'élection douteuse du pape Urbain VI éclipsa d'autres scandales. Prétendument inspirée par l'Esprit Saint, Sainte Catherine de Sienne soutint le pape Urbain VI parce qu'il était romain et condamna le pape élu Clément VII parce qu'il était pape d'Avignon.
C'est le grand schisme d'Occident.
Oui, mais il faut dire que Sainte Catherine de Sienne n'était vraiment pas un modèle...
De probité.
Non, de probité. Oh, pour être probe, elle était probe. Mais pas un modèle, on va dire, de discernement intelligent.
Ah.
Voilà. Elle avait eu des révélations, et je craindrais fort que certaines de ces révélations n'aient pas été plutôt puisées dans ses passions personnelles. Bon. Alors, tel fut donc l'état des paroisses entre l'apparition de Saint Benoît de Nursie vers 480-490 ou vers 550-560 et l'édiction de sa règle ainsi que les institutions de paroisse entre les 12e et 13e siècles en Occident et particulièrement en Gaule. Se pose dès lors, une autre question, celle des évêchés à cette époque-là, ainsi que des vicariats apostoliques en Gaule et en Espagne durant cette période. D'abord, qu'est-ce qu'un vicaire apostolique? Un vicaire apostolique est un prélat revêtu d'un caractère, seulement d'un caractère épiscopal, gouvernant un territoire encore non autonome, dépendant directement du siège apostolique, c'est-à-dire dépendant du pape de Rome. Pratiquement, un vicariat apostolique est quasiment un diocèse, ou l'équivalent d'un diocèse, ce qui revient à dire que le titulaire a un rôle équivalent à celui d'un évêque diocésain. Il semble, bien, qu'une telle institution ait fait son apparition à la fin du IVe siècle ou au début du Ve, du moins en Occident et particulièrement en Espagne et en Gaule. Alors il est tout à fait certain que ce titre et fonction furent antérieurement en usage en Gaule avant l'Espagne. En effet, la papauté avait vainement tenté d'instaurer ce rôle en Espagne vers 470 en voulant faire de la ville de Zénon, alors évêque de Séville, un vicaire apostolique. Il n'a pas voulu. Par contre, en Gaule, la papauté avait réussi à faire de Saint-Césaire d'Arles un vicaire apostolique aux environs de 512. En effet, et savoir son importance du fait que César d'Arles l'avait été moine. Hein. Bon, alors en effet, le pape Symmaque, pape de 498 à 514, avait reçu en 512 César d'Arles qui revenait de Ravenne, où il s'était justifié auprès de l'empereur Théodoric. César d'Arles fut fait vicaire apostolique et reçut le pallium, alors c'était tissé avec de la laine d'agneau, hein, comme vicaire apostolique de Gaule et d'Espagne. Les Espagnols ont dû donc attendre quelque peu avant d'avoir leur propre vicaire apostolique.
J'apprends des tas de choses avec vous, Bernard Vacherot, dans cette émission. En contrepartie, si je peux vous faire découvrir quelques musiciens et chanteurs, c'est avec plaisir. La semaine dernière, vous avez été étonné du jour de clarté de Graham Allwright.
Oui.
Allez, un autre Graham Allwright, ça s'appelle la ligne Allworth.
Fine.
Ted Allworth était un notable dont l'argent venait de la mer. Tous les paroissiens respectables admiraient sa piété de fer, admiraient sa piété de fer. Sans doute il ne confondait guère les affaires et les sentiments, mais sa parole était sincère, c'est du moins ce que disaient les gens, c'est du moins ce que disaient les gens. Il avait tout d'un homme honnête, mais il faut vous dire la vérité. Il était noir sous l'étiquette et ses bateaux étaient damnés. Ses bateaux étaient damnés. Il transportait aux antipodes des hommes attachés par le pied. Bagnards de sang ou de maraud, les criminels de majesté, criminels de majesté. Ils avaient offensé la reine ou bien massacré pour voler. Mais ils tiraient à la même chaîne que des innocents humiliés, des innocents humiliés. Cela s'en allait vers l'enfer pour un crime abominé. Ils n'avaient pas voulu se taire par amour de la vérité, amour de la vérité. La coque était puante et noire, les gardiens comme des loups. Tant de misère, de désespoir, avait de quoi vous rendre fou, avait de quoi vous rendre fou. Depuis le monde a bien changé, la ligne Allworth a fait peau neuve. Elle est très bien considérée, sa réussite est un chef-d'œuvre, sa réussite est un chef-d'œuvre. Il n'y a plus de bagnards dans les calmes et les marins crient comme avant. Sous son pavillon triomphal, elle transporte des émigrants, elle transporte des émigrants.
Sur CFM, la ligne Allworth, c'est Graham Allwright, toujours avec Bernard Vacherot dans l'histoire des religions.
Moi, je suis content de voir qu'il y a une relation entre amicale et sympathique entre les auditeurs et nous. Hein. Voilà. Alors, nous parlions de l'organisation territoriale des évêchés et tout ça. Hein. Alors, cette organisation territoriale des évêchés, du moins telle que nous la connaissons aujourd'hui, commença de se structurer pour l'Église de Gaule au début du IVe siècle. Cette organisation puise son origine dans les décisions du Concile de Nicée en 325, où fut arrêté que l'évêque résiderait au lieu de la région civile de sa domination, de son travail. Ce ne fut pas toujours tenu. Je me rappelle, par exemple, d'un de ces évêques de Sarlat en Dordogne, au XVIe siècle, Niccolò de Gaddis, qui siégeait partout, y compris en Italie, sauf à Sarlat, bon, où on ne vit jamais l'ombre de sa soutane. Mais passons sur Niccolò de Gaddis et revenons à notre concile de Nicée et à sa décision sur le fait que l'évêque doit résider au lieu de son affectation. Ce siège était le plus souvent implanté dans les limites de l'ancienne civitas romaine intérieure. Alors, il semble toujours que l'Irlande d'alors n'était pas encore organisée et n'ait pas été incluse à cette époque-là dans le système et qu'elle le fut beaucoup plus tardivement. La chose s'est précisée davantage lors du concile de Turin en Italie qui se tint en 398 du fait d'un conflit entre les évêques de la Gaule du Midi sur des questions de territorialité et donc, de ce fait, d'exercice des pouvoirs épiscopaux. En somme, il a fallu des désaccords pour qu'en 398, au concile de Turin, on prenne vraiment les décisions qui s'imposent. Alors, le concile de Turin décréta en effet que les évêques, dont la cité était une métropole, exerceraient la fonction de primat dans toute leur province et procéderaient à la consécration de leurs suffragants. En septembre 506, s'est tenu un concile que l'on appelle wisigothique, c'est-à-dire des Wisigoths, dont le nom vient des Goths ou sages, hein, c'est comme ça qu'on appelait les Goths, les sages, exercèrent leurs influences de 378 à 711 ou 718 et s'établirent en Gaule après s'être implantés en Espagne entre 412 et 476. On se souvient qu'ils ont été chassés de Gaule en 507 par Clovis à l'issue de la fameuse bataille de Vouillé, Vienne, près de Poitiers. Bon, donc, en 711, les Wisigoths qui avaient été submergés par les Arabes et en 718 n'avaient pu faire autrement que de se réfugier dans les Asturies, au nord de l'Espagne, où ils ont établi un petit royaume. Donc ce concile wisigothique, nous venons de voir l'historique rapidement du monde wisigothique, donc ce concile wisigothique se tint peu avant la domination de Clovis en 507, ce qui implique qu'il se soit tenu dans une certaine tension politique ambiante qui influa sur lui et sur ses décisions. Ce concile se tint sous la présidence de Saint Césaire d'Arles au mois de septembre 506, en la cité provençale d'Agde, dans l'Hérault. Y participèrent les évêques métropolitains de Bordeaux, Bourges et Auze. Auze, c'était l'ancienne Élusa gallo-romaine du Gers, du département du Gers. À ceux-ci s'ajoutèrent des évêques venus de toute l'Aquitaine et de Provence. Mais le poids politique s'est fait sentir. Tout à l'heure, vous me disiez, cher ami, qu'il y avait le poids de la politique dans les élections. Eh bien là, justement, il s'est fait sentir. Hein. Et le résultat de l'échec de la bataille de Vouillé en 507, fit qu'il n'y eut plus de concile comme celui d'Agde dans nos régions, et que le seul concile traitant de ce genre de sujet se tint à Orléans, dans le Loiret. En effet, le 10 juillet 511, sous la présidence de l'évêque Cyprien de Bordeaux, entouré des évêques de province soumis à Clovis, à l'exception toutefois des évêchés des diocèses rhénans, alors en majorité sans titulaire, et que l'on maintint ainsi d'ailleurs pour éviter d'éventuels contradicteurs potentiellement gênants. Mais les Burgondes, ce peuple germanique établi au cours du 5e siècle en Gaule et en Germanie, ne l'ont pas entendu de cette oreille. Et avant de se fondre au sein de la Bourgogne en 532, du fait qu'ils avaient été battus par les Francs, tinrent un concile, national à Épaon, sous la présidence de l'évêque Avi de Vienne, qui, bien que n'étant pas évêque de Lyon, alors capitale du royaume Bourgonde, se comporta comme s'il était le chef de l'épiscopat des Burgondes. Comme on le sent, et comme on le devine, le poids du pouvoir politique se faisait nettement sentir au vu des pressions du pouvoir civil royal.
Une grande question.
Oui.
Que nous n'aborderons que la semaine prochaine.
Ah, voilà.
Merci Bernard Vachereau.
Avec plaisir.
C'est tous les mardis à 12h35 sur CFM, Histoire et Religion, une émission avec Bernard Vachereau, curé de Caylus.